option de prendre la place de qui que ce soit. Mais on a trouvé que le terrain était tellement délicat que l'on a choisi donc de vous rembourser donc pour bien sûr le public qui avait réservé cette conférence. Et bien sûr, cette conférence est gratuite. Alors, ceci dit, je n'aime pas le terme conférence. Je n'ai bien sûr rien eu le temps de préparer. Je vais vous expliquer un petit peu de quelle façon on pourrait essayer de cheminer. Je n'ai pas bien sûr voulu, par respect aussi pour Jean-Pierre Winter, utiliser bien sûr l'identité pour laquelle vous êtes déplacé, mais comme nous avons supposé qu'elle devait vous tenir à cœur, je suis restée un petit peu donc dans cette énergie-là, à savoir que vous étiez venu pour l'entendre parler de la transmission de la psychanalyse hors université et hors institution. Là, on va essayer, si vous le voulez bien, de parler de la psychanalyse aujourd'hui, de sa transmission et effectivement, pourquoi pas, de la psychanalyse au XXIe siècle. J'ai à mes côtés quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est pas de l'hystérie de séduction. Il demande toujours à ce que je ne le présente pas, mais je tiens à le faire. Donc Lionel Brook est un dessinateur de grand talent. Il nous accompagne depuis quasiment les débuts donc du journal de la psychanalyse. Il a sa page et c'est quelqu'un qui connaît bien la psychanalyse, donc c'est intéressant. Alors donc bien sûr, en général, on fait comme ça un petit partenariat hein, quand il m'arrive effectivement de réagir sur une absence donc un petit peu inopinée. Et puis son talent effectivement m'est très agréable puisque il peut soutenir mes insuffisances, mes hésitations et mes propres résistances. Et puis ça met une respiration qui est fort agréable. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je ne suis pas du tout conférencière. Il est vrai que ce sujet peut m'intéresser puisque je suis didacticienne analytique, donc je gère un institut de psychanalyse, a priori dans lequel les personnes qui me font le privilège de le fréquenter ont le désir, soit bien sûr de mieux se connaître, soit de développer des acquis qui pourraient être intéressants dans le sens d'une profession déjà en place, ou tout simplement de devenir psychanalyste. Je dis tout simplement parce que la psychanalyse est une méthode de simplification. Alors, n'ayant pas eu véritablement le temps de réfléchir à ce sujet, j'ai fait un plan. Tout le monde, bien sûr, est maintenant au courant de la loi Accoyer. J'ai choisi de commencer par cela, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, j'ai réagi un petit peu violemment, parce que j'avais l'impression effectivement que le public pouvait avoir l'impression que le discours, pour le coup, était institutionnel, et c'est pas du tout le désir donc de l'équipe de Psychanalyse Magazine. Donc la loi Accoyer, à la fois, moi j'ai l'impression de mêler de ce qui ne me regarde pas, parce que à aujourd'hui, et malgré ce qu'on veut bien en dire, les psychanalystes ne sont pas du tout concernés. Alors, ceci dit, c'est une espèce d'épée de Damoclès. Et donc, alors troisième point qui m'est apparu aussi intéressant, c'est effectivement de rappeler que la psychanalyse donc est une écoute de l'inconscient et qu'il n'est pas question de l'assimiler à une thérapie. Et si vous le voulez bien, donc on verra pourquoi. C'est-à-dire que l'écoute de l'inconscient se fait au travers d'études extrêmement précises où on va apprendre, entre autres, bien sûr, indépendamment de la théorie analytique basique, donc de façon beaucoup plus pratique, à discerner le sens figuré du sens propre. Il y a quelque chose de l'ordre du détachement qui, effectivement, nous mène à prendre conscience de ce qui est la véritable personnalité qui est logée à l'intérieur de soi et non pas des schèmes identificatoires qui nous ramènent à nos parents ou à toute une filiation qui, en plus de ça, est complètement déformée au fil du temps, notamment par ce qu'on appelle les mécanismes de défense et ce qu'on pourrait appeler de façon plus basique que l'inavouable. Quatrième point, donc transmettre la psychanalyse au XXIe siècle. Et j'ai voulu insister sur cette notion de plaisir et de dépendance, donc bien sûr d'une société qui est quelque part en crise, puisqu'elle fabrique ce qu'on appelle de l'étayage, c'est-à-dire que l'être humain, qui, Dieu sait s'il a toute possibilité de se désétayer, d'être autonome, est complètement pris en charge et j'ai presque envie de dire malgré soi, parce que finalement c'est tentant d'aller chercher du côté des voies faciles. Il y a tellement de choses qui nous sont proposées qu'on peut aussi succomber à la tentation, ne serait-ce que sur des périodes où on est fatigué, plus vulnérable, où on peut avoir le porte-monnaie un peu plus raplapla, hein, parce qu'on traverse aussi tout ça au cours d'une existence. Mais on verra effectivement que il est certain que la psychanalyse a un rôle fondamental à jouer pour qu'encore une fois l'être humain se réapproprie le fait d'une autonomisation quand même que des décennies se sont appliquées à essayer de révéler. Alors, quid des élèves analystes et des analysants? Bon, bien sûr, je crois que les détracteurs, effectivement, de l'analyse profane oublient quand même que l'individu est un sujet qui est fait de désir. Et que je sache, on n'a jamais obligé qui que ce soit à fréquenter qui que ce soit ou quoi que ce soit. Moi, je prends toujours le même exemple. Maintenant, j'ai vraiment un âge très avancé. Or, on ne m'a, par exemple, jamais proposé d'aller dans une secte. Donc, ce qui prouve bien que je ne dois pas avoir le physique de l'emploi. Et puis, parfois, j'ai pu aussi rencontrer des sujets qui ne me correspondaient pas, parce qu'en fait, c'est pas du tout en termes de répulsion. On peut être attiré aussi par des individus qui, au contraire, vont faire en sorte que nous en rajoutions à notre masochisme. Mais nous sommes aussi les actants de notre destin. Ça, c'est une évidence et on le sait quand même maintenant. Alors, la psychanalyse et après, et puis aussi donc toute votre participation. Alors, il y a deux possibilités. Moi, si vous êtes d'accord, m'intéresserait davantage que vous réagissiez au fur et à mesure de ces points, parce que, encore une fois, je n'ai pas l'intention de vous transmettre quoi que ce soit. Vous n'êtes pas là pour développer un apprentissage. Et je trouve qu'on construit davantage, effectivement, une expérience analytique dans la mesure où vous êtes participatif. Alors, je vais vous laisser malgré tout choisir, puisque c'est quelque chose de très informel aujourd'hui. Avez-vous le désir plutôt que nous démarrions par des questions, ou au contraire que je fasse avancer un petit peu les choses? Y a-t-il une première question concernant le premier point sur la loi Accoyé, donc un débat projectif, donc commun finalement à la médecine, pourquoi pas, aux psychothérapeutes, aux psychothérapies et bien sûr à la psychanalyse? Y a-t-il des questions que vous auriez envie de soulever?
Oui, bonjour. Je voulais vous demander, qu'est-ce qu'a fait la profession des psychanalystes réellement pour opposer, oui, une autre voie à cette loi jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'il a été? Parce que, bon, j'ai bien lu tous les forums et enfin, tout ce qui s'est sur Internet, mais...
Oui, alors moi je me suis renseignée, il y a une chose qui m'a gênée, et ça n'engage que moi, c'est quand Jacques-Alain Miller a donné, donc maintenant il y a quelques semaines, une première interview dans Libération. Et bon, bien sûr, je n'en ai pas discuté avec lui, mais je me demande s'il n'a pas fait pencher la balance, parce que le journaliste a fait volontairement ou involontairement un amalgame qui a fait flamber effectivement une confusion qui n'est pas du tout logique ni légitime. Donc, a priori, les psychanalystes restent relativement en retrait. Vous voyez, j'ai envie de tousser. Je l'avale pas, ce truc. Comment? Oui. Oui. Alors, m'a été relaté aujourd'hui, donc M. Accoyé a donné une interview récemment où il insiste beaucoup en disant qu'effectivement, d'ailleurs, j'ai des bribes aussi qui vont dans ce sens-là, dans le sens où effectivement, les psychanalystes ne sont pas du tout concernés. Ce que vous dites est réel, hein, savoir que la psychanalyse peut être concernée très rapidement. Ceci dit, il y aura quand même une réelle difficulté dans la mesure où la psychanalyse n'est pas une méthode de soins. Freud a parlé de principe de guérison, c'est-à-dire qu'il n'a jamais parlé de guérison. Dans la mesure où en analyse, il y a toujours la suggestion d'un possible quant à soi. A priori, les psychanalystes de formation philosophique et linguistique ne s'attaquent pas aux symptômes. On se sert du symptôme comme une base de travail qui est très intéressante. dans la mesure où le symptôme, selon Freud, est l'extériorisation d'un conflit interne. Et si on supprime effectivement cette formation symptomatique, qui peut être le chômage, qui peut être un handicap physique, qui peut être une conduite addictive, que ce soit le jeu, l'alcool, la drogue, etc., si ça on le supprime, on se retrouve face à un vide et l'inconscient ne va pas jouer le jeu, J.E. Donc, a priori, moi, au travers de ce que j'ai entendu, chez les psychanalystes, j'ai envie de dire basiques, hein, pourquoi pas, il n'y a pas de grande mobilisation. Elisabeth Roudinesco s'est exprimée, mais on a toujours du mal à la situer en tant qu'historienne, en tant que psychanalyste. Bon, elle a un peu de mal à choisir son camp, et moi, j'ai lu la lettre qu'elle avait envoyée, elle reste très confusionnelle. Donc, effectivement, elle est censée... protéger a priori et vouloir participer donc à la protection du métier de psychanalyste, mais ça reste assez ambivalent quand on lit un petit peu entre les lignes. Donc on a l'impression que chez les psychanalystes de renom, l'engagement reste très discutable. Moi, malheureusement, c'est ce qui me gêne. Ceci dit, il y a un très beau texte de Bernard-Henri Lévy qui lui, en revanche, choisit son camp, et c'est vraiment un texte qui est superbe, qui est juste, qui est subtil, qui est pointu, et là vraiment il donne son sentiment, à savoir que si les choses continuent ainsi, il y aura des rives. Alors c'est un texte qui est paru dans l'Express. Pardon, excusez-moi, oui, je fais un lapsus, ce qui n'est pas hasard, dans le... oui, et ça presse, dans le Point. Mais c'est bien dans le Point, finalement, Point, et puis Point, la ligne. Oui, dans le Point, c'était la semaine dernière, je crois, c'est ça?
Oui, la semaine dernière, oui. Juste à ça, je voudrais quand même intervenir, dans le sens où moi aussi, a priori, l'intervention de Jacques Alain Miller m'a semblé mal placée dans Libération, mais en suivant de près les choses, je me suis dit qu'en fait, c'est pas pour rien s'il intervenait, c'est qu'en fait, malgré tout, derrière cette loi, il y a ce qu'on appelle le rapport Cléry-Molin, qui est un rapport de reprise en main, quadrillage quand même de toute la profession psy par la psychiatrie, et qui à plus ou moins long terme risque d'éliminer tous les gens qui exercent dans la psy, qui ne sont pas médecins, psychiatres ou éventuellement psychologues cliniques.
Oui, alors moi j'ai eu entre les mains ce rapport, hein, il fait 116 pages, c'est quelque chose d'assez conséquent, mais malgré tout en aucun cas la psychanalyse n'est attaquée.
Alors le second point par rapport à ça, c'est que malgré tout dans les commissions qui ont présidé, alors moi tout ça c'est des suppositions, c'est pas une prise de position, je suis pas du tout pour Jacques Alain Miller, hein, c'est vraiment à le dire, ça on se découvre au fur et à mesure en tant que public et psychanalyste. Et de l'autre côté, donc, l'amendement Coyer a quand même été... ça fait 2-3 ans qu'il est débattu, et entre autres, par des psychanalystes. Et qu'effectivement, dans la commission, il y a des psychanalystes qui doivent intervenir. Donc là, effectivement, c'est disons que ce sont les psychanalystes médecins d'une certaine société qui ont envie d'éliminer tout ce qui n'est pas universitaire ou médical éventuellement. Et je crois que c'est là où Jacques Alain Miller, c'est quand même grâce à son intervention qu'il y a eu cet article très beau, comme vous dites, de Bernard-Henri Lévy dans Le Point. C'est qu'il a préféré, je crois, devancer plutôt que de se trouver devant le fait accompli, où tout ce qui n'était pas psychanalyse médicale aurait été éliminé.
Oui, alors, bon, ça reste vraiment très entre les lignes, hein, ceci dit, en sachant que ça remettrait toute la question de l'analyse profane. Vous savez que Freud, alors qu'il était de formation médicale, préférait donc les psychanalystes de formation linguistique. Je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, puisqu'effectivement, s'attaquer aux symptômes, ça marche. C'est vrai que c'est plus radical en apparence, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace, mais le symptôme va se déplacer. Qu'entend-on par là? Je l'illustrerai, si vous voulez, par un exemple, c'est-à-dire que ce symptôme va se déguiser, va prendre une autre forme qui va être beaucoup plus résistante et beaucoup plus difficile. D'ailleurs, ça nous permettrait peut-être aussi d'avancer dans le sens du symptôme. Le symptôme, malgré tout, a du sens. C'est vrai que ça nous embête, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très lourdes. Je vais prendre comme exemple l'histoire que m'a racontée une de mes patientes. Son père était un alcoolique invétéré et sa mère le menaçait régulièrement de le quitter. Et un jour, elle lui a dit, voilà, maintenant, ou tu fais une cure de désintoxication alcoolique, ou je te quitte. Elle l'avait beaucoup hystérisé avec un pseudo-amant. Donc, cet homme était de plus en plus mal et il est allé effectivement consulter un psychiatre. Donc, il a fait faire une première cure de désintoxication qui n'a pas marché. Donc, la mère de cette patiente a réitéré ses menaces. Cet homme a fait une cure de désintoxication alcoolique qui a marché, entre guillemets, puisque 2 ans plus tard, il décédait d'un cancer généralisé. Donc, ça, Freud l'avait compris, c'est-à-dire tant qu'on ne comprend pas le sens du symptôme, à savoir le sens des mots MOTS et MAUX, bien sûr, peut-être aussi ce Momo, hein, j'ai Momo quelque part, il est bien évident que le symptôme va nous narguer, donc il va effectivement prendre une forme beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus difficile, et curieusement d'ailleurs à ce moment-là, et pour le malade bien sûr, et pour l'entourage de la famille. Et regardez, c'est intéressant parce que quand on écoute la production langagière, en fait, on entend cancer, c'est-à-dire quelque chose qui sert à quelque chose. Et on voit bien que l'inconscient de cet homme s'est vengé. Bon, il était malade. C'est vrai que s'il avait eu recours à un travail psychothérapeutique ou psychanalytique, les choses se seraient passées autrement. Mais de toute façon, son histoire prouve qu'il n'était pas prêt. Donc s'attaquer aux symptômes, c'est perdre de vue effectivement le sens de son histoire. Le symptôme nous parle. Il va à sa façon répéter ce qui ne se dit pas, donc au niveau d'une vie inconsciente. Donc encore une fois, tout ce que l'on a refoulé, cette partie cachée de l'individu. Puisqu'il faut savoir qu'au fil des siècles, parce que la chaîne dite des signifiants est extrêmement longue, il y a eu ce que l'on pourrait appeler des fautes, ce qui est très dommage, parce que il n'y a pas de faute. Finalement, l'être humain est soumis à des expériences qui sont extrêmement parlante, mais lorsqu'il y a des familles, notamment psychorigides, on va cacher. Hein, alors, à l'époque, on cachait cette population qu'on appelait des filles-mères, par exemple, où ça pouvait être effectivement un assassin, ça pouvait être un voleur, un violeur, etc. Ou tout simplement quelqu'un qui mesurait 1m40, si dans la famille il fallait mesurer 1m80, parce que c'était de cet ordre-là, ça l'est toujours. Je pourrais même passer par moi. Monsieur Préjean tout à l'heure disait on est écrivain quand on dit je, effectivement. Un jour, mon psychanalyste m'a dit. Alors je lui parlais de gens, j'étais tout à fait sincère dans ma famille, qui étaient bardés de diplômes. Moi qui n'avais jamais voulu me lancer dans cette expérience-là, du moins dans les diplômes d'État, ayant une famille, effectivement, notamment appartenant à une famille, notamment d'enseignants. Et un jour, il m'a regardé, il m'a dit, une famille, elle est chouette, hein, ils ont tous des diplômes, mais que sont devenus tous les autres? Et ce jour-là, j'ai pris conscience que tous les gens qui n'avaient pas réussi, entre guillemets, donc selon ma famille, étaient planqués, étaient cachés. Ça, le problème, c'est que ces gens-là vont revenir sous des formes fantomatiques. Et voilà ce qu'est le symptôme, en fait. Il est dit, je ne veux pas du tout vous évangéliser, mais il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup, des évangiles, qui dit « Une chose n'est impure que lorsque l'on... » pour celui qui la croit impure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est jamais que ce regard étriqué que l'on va jeter effectivement sur quelque chose qui nous semblerait négatif, qui va nous réduire, qui va nous diviser et qui va nous invalider à la longue, parce que il y a des formes bien sûr de régression qui peuvent être très dangereuses et qui peuvent nous amener jusqu'aux portes de la mort de façon bien prématurée. Y a-t-il donc des questions? Je trouve que c'est plus sympathique. Oui, voilà, donc il y a...
Moi, je vais continuer à réagir par rapport à la loi Accoyer. Alors, peut-être que les psychanalystes, comme vous dites, sont moins concernés par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je suis psychothérapeute, et donc on est complètement concernés. Mais ce qui se passe, dans le fond, c'est quand même un problème de société. C'est que comment, justement... un groupe de députés peut justement intervenir sans se référer aux instances, aux associations, aux professionnels, aux syndicats, alors qu'il y a déjà quelque chose qui est déjà établi. Donc je pense que c'est plus une réflexion sur notre société et qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à ce phénomène.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et d'ailleurs, moi, la première question qui m'est venue, ça aurait été de demander à M. Accoyer s'il avait fait l'expérience d'une psychothérapie. Alors effectivement, c'est quelque chose qui reste très démagogique, ça c'est une évidence. On sait, parce qu'il faut le dire, on sait aussi que les psychologues et les médecins actuellement donc connaissent des problèmes, et si on fait cela, on va faire le jeu d'un gouvernement effectivement qui devient de fait très discutable. D'autre part, ça, moi, c'est quelque chose qui me fait peur, c'est quand même le règne de la pensée unique, donc qui pointe son nez, en sachant que l'analyse, justement, fait travailler, d'une part, sur la distance, donc mise à distance d'un problème, c'est-à-dire le rétablissement d'un lien non pathologique à la mère, ou du moins au, on va dire à tout ce qui peut être maternant, à tout ce qui peut s'apparenter à l'accueil, et le père va faire entrer l'inconscient de l'enfant dans le registre de la différence. Et de cette alliance, distance-différence, naît quand même l'acceptation, c'est-à-dire la tolérance. Et c'est pour ça, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, je trouve qu'il y a quand même un manque d'interrogation, mais qui est beaucoup plus grave que ce qu'on veut bien le dire. Alors, pour reprendre un petit peu ce que vous disiez, je ne veux pas du tout banaliser la chose, c'est que je ne veux pas me mêler non plus, moi, et me faire le porte-parole et faire flamber le torchon de choses qui ne me concernent pas tout à fait. On parlera, si vous voulez, tout à l'heure des différences entre psychothérapie et psychanalyse, si ça vous intéresse.
Oui, tout à fait. Mais moi, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est le phénomène de société. Et ça, ça concerne donc l'être humain. Et ça concerne donc sa réalité d'aujourd'hui, son devenir. Moi, c'était un peu, pour en revenir à cette dimension philosophique, c'est le questionnement au-delà des clivages psychothérapeute, psychiatre ou psychologue. C'est la question fondamentale. On est tous des êtres humains, on a tous un esprit, on réfléchit, on est tous là, confrontés à une réalité. Et on est soi-disant dans une société telle qu'on nous la montre. Mais il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et alors qu'un ensemble de personnes essayent de travailler sur elles pour justement mettre de la lumière, pour essayer d'être un peu plus cohérent, et pour aussi, avec cette lumière, accompagner les autres et les aider à être un peu plus cohérents, on se retrouve confronté avec des personnes qui ont un pouvoir et ne sont pas dans cette cohérence. Et je trouve que c'est très agressif, c'est très violent, et cette agression, ça me met en colère, donc je l'essaie de la contenir, mais elle est là, je ne me sens pas du tout respecté, et je trouve ça très grave, parce qu'on se dit en démocratie, et là, il y a soi-disant un contre-pouvoir. Alors, je ne veux pas aller dans le domaine de la politique et tout ça, mais quand même, la politique, politis, c'est le peuple, et on est tous là concernés, je veux dire, je veux pas que ça aille sur le terrain politique, mais il faut pas perdre de vue.
Ça en fait partie.
Et on est dans une société, soi-disant que en démocratie, la démocratie c'est quoi? C'est l'équilibre des pouvoirs avec un pouvoir en place et un contre-pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de contre-pouvoir. Mais ça veut dire aussi qu'on est responsable en tant que citoyen. Et qu'est-ce qu'on a fait pour mettre ces députés-là en place? Donc je pense que il y a beaucoup de. Moi, je pense que c'est aussi une ouverture pour réfléchir sur notre société.
Oui, il y a peut-être deux choses auxquelles vous faites allusion, peut-être de façon marquée. D'abord, ça remet en cause effectivement les travaux de Jacques Lacan sur le sujet désirant, c'est-à-dire un sujet qui est aussi capacitaire à s'auto-frustrer, pourquoi pas aussi à s'auto-pénaliser, ça passe par où ça passe, mais ces expériences sont utiles, bien sûr. Ensuite, bien sûr, vous revenez au rapport dominant-dominé. Et donc notre responsabilité. Alors c'est pareil, moi je me suis un petit peu quand même interrogée là-dessus, dans la mesure où je l'avoue, apolitique, je comprends rien à la politique, mais j'ai peut-être cette particularité, ça peut être une forme de paresse et de lâcheté, je fais confiance, c'est-à-dire que je me dis, il y a des gens effectivement qui sont extrêmement responsables, après tout ils occupent une place, ils sont censés quand même être au fait des choses, et je crois quand même pas que ce soit de la démission, il y a une, je crois chez beaucoup d'entre nous, il y a quand même une forme de confiance, et aussi ce que Jacques Lacan, en s'étayant sur les travaux de Freud, pouvait appeler le nom du père, avec quelque chose d'extrêmement protecteur. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression que non seulement le père nous abandonne, mais il nous mutile, il nous ampute. Et ça aussi, si on a un petit peu un regard en amont de l'histoire, malheureusement, ce sont des choses qui deviennent récurrentes. Il y a eu d'autres personnages qui ont eu cette attitude-là. Et c'est pour ça, tout à l'heure, et j'aurais aimé quand même que Jean-Pierre Winter appelle, quels que soient ses problèmes, c'est que pour moi, c'est une forme de désengagement. Et en tant qu'analyste, je n'ai pas apprécié du tout qu'ils prennent même pas la peine de faire un mot aussi aux gens donc, qui avaient réservé un espace de conférence.
Pour nommer les choses,
comment, pardon ? Pour les nommer, dites-vous. Ben oui, c'est le nom du père, on est bien d'accord. Et en tant qu'analyste, ça, son attitude m'a quand même surprise, quels que soient les motifs, parce qu'après tout, même si c'est pour des raisons médicales, Dieu sait si chacun a été malade et on sait très bien que ça peut nous guetter à tout instant, mais à ce moment-là, on le dit et tout le monde peut l'entendre. Et j'ai trouvé effectivement qu'il y avait dans cette conduite quelque chose de l'ordre de l'abandonnisme qui m'a quand même laissé dubitative. Mais j'aimerais qu'ils m'appellent ou qu'ils m'écrivent.
Oui, si vous permettez, je voudrais prolonger un petit peu cet aspect des choses. D'abord, c'est pas, la loi n'est pas votée, ce n'est qu'un amendement. Oui. Elle passe actuellement au Sénat. Elle va revenir ensuite en deuxième lecture à l'Assemblée. Et seulement là, elle sera votée. Et il faudra attendre les décrets d'application. Et parfois, ça peut être très long. Hein, ça peut être parfois plusieurs années. Ce qui veut dire qu'on est au cœur du combat et que c'est maintenant qu'il faut se défendre. Ce n'est pas après. Et c'est maintenant qu'il faut dire les choses. Il faut les dire avec force et avec vigueur. Parce qu'il y a une véritable psychanalyse de cet amendement à faire. Car c'est un véritable mécanisme de défense de la société ou de certains de la société qui pensent justement qu'il y a des dangers autour d'un certain nombre de personnes. Et c'est ça. D'une certaine manière, c'est presque le champ du signe d'une société trop cartésienne qui ne veut pas admettre que le Dalai Lama, quand il vient en France, il a un nombre de plus en plus grand d'auditeurs, que certaines philosophies orientales commencent à nous pénétrer, à nous faire grandir aussi, d'une certaine manière. Et finalement, c'est toutes ces dimensions-là qui sont rejetées, d'une certaine manière, d'un coup de plume, et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui est grave. Et en plus de ça, ça met les personnes les unes contre les autres, alors que les médecins ont besoin des psychothérapeutes. Pourquoi ? Parce que les uns, comme vous l'avez très justement dit, s'intéressent aux symptômes et les autres aux causes. Et donc, on est complémentaires. Et c'est cette démarche que je trouve stupide de mettre les uns contre les autres, alors qu'on a à travailler ensemble et à faire des progrès ensemble pour faire grandir l'individu. C'est ça. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut au contraire mettre toutes nos forces pour faire comprendre cet aspect-là des choses.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, bien sûr. C'est vrai que la protection est quelque chose d'anticipatoire, mais je reviens un peu aussi sur ce que je disais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque véritable à s'attaquer alors véritablement à un symptôme d'un autre qui n'est peut-être pas fatalement d'ailleurs, je crois que c'est ce que vous induisez, la psychothérapie, parce que le malaise, effectivement, vous parliez de cause, parce que la loi Coyer ne traite que de l'effet, on est bien d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait à s'attaquer à ce symptôme-là, et est-ce qu'on n'est pas les boucs émissaires, c'est-à-dire qu'on sait très bien que la recherche de conflits cache des choses qui sont beaucoup plus graves et notamment une certaine déculpabilisation extrêmement malsaine et malhonnête très en amont. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous seriez plutôt partisan, parce que là aussi, bon, là, c'est encore une fois la direction de Psychanalyse Magazine qui vous écoute. On a été très sollicités, parfois de façon agressive, pour l'instant, donc on n'a toujours pas réagi, parce que tout comme vous le dites, il y a quand même une sagesse qui consiste aussi à attendre que les choses soient objectives, hein, c'est toujours le fameux principe de réalité. Mais est-ce que vous êtes très partagé ? Est-ce que vous voulez vous exprimer sur ce sujet ?
Moi, j'aurais juste voulu dire que cette loi a été votée, en effet, un petit peu à la sauvette, puisque ça a été de nuit, et je crois qu'il y avait 10 députés dans l'hémicycle. Donc, pas du tout. Et donc, en plus, bon, c'est parti au Sénat, et le Sénat, en principe, ce sont des modérateurs qui examinent. Le gros pavé a été lancé par les députés. Les sénateurs. C'est de voir ce qui est possible. Et là, en effet, on a sans doute à essayer de joindre, de faire passer de l'information à ce niveau, de façon à ce que eux
prennent des amendements et essayent d'ajuster ce qui a été jeté, c'est-à-dire le bébé avec l'eau du bain, et donc qu'il y ait peut-être moins de dégâts que ce qu'on peut penser actuellement.
Bon, de toute façon, c'est une loi qui est absolument inapplicable. Ça, il faut le savoir. Bon, parce que là aussi, ça, c'est une réalité.
Ça va ressurgir d'une autre façon. Les gens trouveront de toute façon un positionnement pour exercer. Donc, ils auront d'autres appellations, d'autres... Mais ce que je voulais dire, c'est que lancer ça sur la politique en général, et le dessin de monsieur qui était très, très amusant, en disant il y a peut-être un député de mettre là au milieu... moi, je n'irai pas aussi loin, parce que c'est 12 personnes qui ont voté, ce n'est pas tous les députés, et comme vous disiez, on peut penser aussi que dans chaque être humain, même si les députés ne sont pas que des salauds et des tordus. Donc je trouve qu'il ne faut pas non plus se décharger sur la politique et dégueulasse, enfin, je m'excuse du terme, et il y a peut-être... leur donner aussi un petit peu, comme vous disiez, de confiance, mais ni agir en effet pour tout faire avec notre possible, pour alerter, pour contacter, pour envoyer d'autres informations. Voilà. Donc je trouve que se rebeller sur un corps qui est la politique, je sais pas, je trouve que c'est un peu lâche, c'est un peu... Voilà.
Oui, dans votre intervention, alors, ce qu'on pourrait aussi, on pourrait reprendre les débats aussi, puis qui sont effectivement à l'ordre du jour ici, avec bien sûr toutes ces publications qui sont intéressantes, hein, toutes confondues dans le domaine psy. Alors effectivement, ça voudrait peut-être dire aussi que les psychothérapeutes, hein, puisqu'ils sont concernés en premier lieu, ne s'expriment pas suffisamment, sont trop en retrait, ne publient peut-être pas suffisamment aussi. Il y a beaucoup de choses qui se font malgré tout. On s'est peut-être laissé envahir aussi par certaines psychothérapies qui sont mal adaptées à la société française. Je pense notamment les psychothérapies américaines. Alors, voire canadiennes, ça me gêne de mettre tout le monde dans le même sac, parce que je pense à une maison d'édition comme les Éditions de l'Homme, qui est une maison qui est remarquable. Mais il est vrai que malgré tout, on s'est peut-être laissé un petit peu infiltrer. Et alors là, pour le coup, la meilleure protection, c'est effectivement de passer à l'acte. Et à notre tour, de nous exprimer au travers de nos pratiques respectives. Ça peut être une possibilité, seulement je ne suis pas sûre que ça suffise actuellement. Est-ce qu'il y aurait des suggestions ? Oui, le silence est éloquent, parce qu'effectivement, on peut toujours se dire, et c'est vrai, c'est un constat a posteriori qui vaut ce qu'il vaut, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais faire quoi? Et moi, j'en suis pas sûre. Je suis pas sûre, justement, qu'on n'ait pas fait ce qu'il fallait. Encore une fois, et Dieu sait si c'est quand même pas donc le champ de ma pratique quotidienne, mais je trouve que les psychothérapeutes font du bon travail. Dans des réactions qui sont pas toujours bien gérées, de façon individuelle ou groupale ou corporatiste, moi, je trouve qu'on peut parfois arriver à démontrer l'inverse, parce que à trop se justifier, et là, je fais allusion aux rationalisations, on peut aboutir à des situations extrêmes qui vont se retourner contre nous. Jacques Lacan, quand ses patients rationalisaient, il les fichait dehors, manu militari. Et il faut se méfier aussi. Regardez, quelqu'un n'a pas confiance en soi, cet autre devient suspicieux, ça je crois que c'est arrivé à tout le monde, on se justifie parce qu'on est en retard, c'est le mari jaloux ou c'est l'épouse aussi qui fait une crise d'hystérie parce que le mari n'est pas rentré à l'heure dite, et on rentre dans des justifications parce qu'on a une espèce comme ça d'angoisse qui monte, et je trouve que plus on s'explique, plus on donne raison à l'autre, et on donne l'impression que l'on s'enferre et que l'on s'enfonce dans le mensonge. Moi, je trouve qu'à partir d'un certain moment, il est très difficile d'expliquer hors compétence, alors c'est ce qui a été soulevé depuis tout à l'heure, en véritable compétence, ce que l'on est et ce que l'on fait. Et justement, tout à l'heure, je n'ai pas terminé ce que je disais, donc m'a été rapporté aujourd'hui que M. Accoyer, donc, qui a donné donc, cette interview, a été confronté à quelqu'un qui l'a un petit peu attaqué en lui disant, mais c'est bien beau de dire que les psychiatres vont pouvoir tout régenter, les psychologues, voire les infirmiers, puisqu'il en est question, mais ces gens-là alors vont être soumis à un travail sur eux, mais qui va effectivement les superviser? Et il aurait répondu, ah oh ben ça, écoutez, c'est pas ma partie, j'en sais rien du tout. Alors, c'est là, vous voyez, où ça devient très difficile. Vous parlez, regardez le nombre de fois où, en tant qu'analyste, on est attaqué. On nous dit, bon, les gens qui vont en analyse divorcent, ne fréquentent plus leur famille, etc. Les gens qui reprochent ce genre d'aberration sont des individus qui, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, n'ont jamais mis les pieds chez un psychanalyste. Et ça devient un dialogue de sourds.
Oui. Il faut donc proposer à nos députés et à nos sénateurs de venir à une séance de
Oui.
L'enregistrement magnétique, je répète la question. Ce que nous proposons, eh bien, c'est d'écrire à son député ou à son sénateur. C'est la seule méthode. Il n'y en a pas d'autre. Puisque, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est nous qui les élisons. Parfois de façon indirecte, bon, ben enfin direct au moins pour l'Assemblée nationale. Et puis de leur proposer ce que l'on fait, parce qu'ils en ont peut-être besoin, mais ça c'est une autre parenthèse, on ne leur dira pas ça comme ça. Mais la seule bonne méthode, c'est de leur écrire, ou d'utiliser les médias, il n'y en a pas d'autre.
Oui, alors moi je suis restée peut-être beaucoup plus individualiste, hein, tous discutent, je me suis dit que ce monsieur Accoyer, dont je n'avais jamais entendu parler, lui alors était en recherche de reconnaissance, mais c'est le genre de choses qui marchent. Ça, alors de ce côté-là, là, voyez, lui effectivement, j'aimerais bien le prendre en analyse, ça serait intéressant, hein, de voir où il en est, de ses projections et de ses complexes. S'occupe des oreilles. Oui.
Oui. Non, mais.
Oui, on n'échappe pas comme ça, effectivement, à son destin.
Oui, l'identité. Il y a des bruits qui circulent, alors je ne vais pas vérifier, mais il y a des bruits qui circulent. Alors, le premier, c'est que M. Accoyer a dit qu'il voulait absolument mettre son nom par rapport à une loi, parce que c'était quelque chose qu'il avait à cœur, donc il avait besoin de reconnaissance, de narcissisme. On en a tous besoin, bon, mais lui, c'était son objectif. Hein. Et la deuxième chose, c'est qu'il aurait soi-disant aussi écrit à tous les députés. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des institutions, c'est qu'ils étaient 5, 6, 7 ou 8, effectivement, ce fameux soir à l'Assemblée, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des pouvoirs. Et donc, la voix a été votée, 338 voix contre... mais ils avaient la majorité.
Oui.
Ils ont des pouvoirs de collègues.
Et très net.
Voilà, donc ils pouvaient être 5, peu importe. En face, ils n'étaient pas plus nombreux, mais ils avaient tous des pouvoirs. Mais comme c'est la majorité, ben, c'est passé. Et là, maintenant, M. Accoyer est en train d'écrire au sénateur en disant, si vous bougez d'une virgule, ça va revenir au débat, donc il ne faut pas toucher pour pas que ça soit débattu. Donc il y a une sorte de lobbying qui est fait aussi à ce niveau-là. Parce qu'il semble bien qu'il y ait une réaction. Donc il faut bien sûr, comme dit monsieur, il faut continuer à écrire, il faut continuer à réagir massivement pour que les députés et les sénateurs se rendent compte que ben, c'est plus grave qu'une histoire politique ou historique.
Oui, quelqu'un veut s'exprimer ?
Oui, j'ai bien entendu tout ce qui s'est dit par rapport à l'amendement d'Accoyer. Les médias, enfin j'ai été témoin aux informations télévisuelles, de l'influence des médias aussi immédiatement dans ce sens de cet amendement. C'est-à-dire juste une interview d'une femme dont le mari était allé voir une psychothérapeute qui lui avait conseillé à son mari donc de faire chambre à part. Que s'il voulait se retrouver, avancer dans la vie, il fallait qu'ils se séparent. Et bon, elle était révoltée naturellement de cette psychothérapeute. Et voilà, juste à une heure de grande écoute, on entend voilà, un témoignage d'une psychothérapie. Alors là aussi, il y a l'influence des médias. Et que faire aussi devant cette ruée des médias dans ce sens-là?
Oui, alors je pense que c'est bien sûr aussi bien valable du côté de l'analyse que de la psychothérapie, quelle qu'elle soit. C'est que je crois qu'en tant qu'analyste ou psychothérapeute, la chose que l'on a à dire dès l'entretien préliminaire, c'est qu'un travail sur soi doit rester quelque chose d'intime, marié ou pas. Et là, on a beaucoup de problèmes aussi avec des couples comme ça. On a les deux éléments du couple qui consultent et qui va effectivement utiliser la psychothérapie ou la psychanalyse pour régler ses comptes conjugaux. Alors, moi, il est bien évident que si mes patients ou patientes persistent, parce que comme ensuite ils entrent en culpabilité, où ils nous répètent effectivement les hurlements du conjoint, bien sûr, qui se sent complètement abandonné, exclu, moi, si véritablement ça se répète deux, trois fois, je me sépare de ces patients-là, parce qu'on n'est plus en analyse. Et je crois que, effectivement, ça rejoint ce qui était induit tout à l'heure. On a certainement une part de responsabilité lorsque une loi comme ça donc arrive. Et je crois que, bon, mais là, c'est peut-être aussi le cœur du problème. Si on reste abandonnique, pour le coup, il n'est pas question, bien sûr, de recevoir des patients, quelle que soit la médiation que nous allons utiliser.
Alors moi, je reviens un peu en arrière sur la question du traitement dans les médias et du traitement un peu caricatural sur Antenne 2. Dans une démocratie qui ne serait pas délétère, il aurait fallu aussi des témoignages de gens qui étaient satisfaits de leur psychothérapie.
Bien sûr. Bien
ça existe. Sur bien Internet, il y a des gens qui ont créé un site qui s'appelle « Touche pas à mon psy, Freecom ». Voilà. Alors, je vous le dis.
Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais ça reprend un petit peu en écho tout ce qui a été dit tout à l'heure, où il y a quand même des courants qui sont partisans. Ça, c'est une évidence. Et le danger est là. Il est là dans son principe.
Oui. Moi, je voulais dire que je m'étonne un peu qu'on soit étonné qu'une loi apparaisse et que nous ne la voudrions pas, enfin pour beaucoup d'entre nous, enfin une loi ou un amendement, et que tout d'un coup ça nous apparaît, parce que la politique ça ne nous intéresse pas, les réalités de la vie ça ne nous intéresse pas, et que je veux dire, il n'y a pas que cette chose-là qui nous arrive, et que si on ne réagit jamais, des choses pires que ça, et bien pires vont arriver. Et on va vers le pire. Alors, je pense que, pour dire autre chose, que vous parlez de la psychanalyse du 21e siècle. Moi, j'ai connu pas mal celle du 20e siècle. J'ai connu la montée de ce dont c'est un des points que vous avez débattu, de la psychanalyse universitaire, c'est-à-dire celle qu'on sait, sans l'avoir pratiqué. Alors, je vais dire ça, c'est il y a eu une montée, et la psychanalyse médiatique, enfin, qui est apparue dans les médias, et qui n'avait rien à voir avec le travail qui pouvait être fait, hein, par ailleurs. Et je veux dire ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai vu, enfin, je veux dire, il y a eu le pouvoir des médecins qui est arrivé. Moi, je veux dire, je suis psychologue, et j'ai vu que nous avons été très, très maltraités. Nous avons dû nous défendre contre des médecins tout puissants qui ne voulaient pas que nous exercions. Hein. Alors évidemment, maintenant, c'est la chaîne, ça continue. Et si on s'occupe, comme dirait l'autre, si on s'occupe que de son petit précaré, je veux dire, on n'arriverait jamais à rien. Voilà. Bon.
Oui, mais alors, là, je suis d'accord au niveau de ce que vous dites, mais je trouve que déjà, quand on fait son travail, parce que je sache qu'il s'agisse encore une fois de psychothérapie ou de psychanalyse, on travaille tous autour de l'individuation, c'est-à-dire autour de l'autonomie du sujet. Et dire qu'on ne participe pas à la protection de profession, je ne suis pas d'accord, puisque peut-être que l'axe premier de nos professions, c'est d'apprendre, même si le terme reste prétentieux, aux patients, aux analysants, à ne plus se laisser contrôler, en jargon analytique, par l'autre, c'est-à-dire rester campé sur ses décisions dès l'instant où on a vérifié qu'elles étaient tout à fait acceptables et pour soi et pour l'autre. Vous voyez, parce que, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à trop vouloir se défendre, on est en train d'avaliser le fait qu'on fait un travail insipide, inodore et sans saveur, voire dangereux. Alors, moi, j'ai l'impression, en travaillant comme je le fais, bon, c'est pas bêtement narcissique, mais j'essaie de faire de mon mieux, et il y a une chose que je ne perds jamais de vue, c'est que l'être humain, effectivement, dès sa naissance, a quand même coupé le cordon. Donc moi j'ai l'impression sur le terrain, encore une fois, je suis apolitique, bon, je n'ai aucune sensibilité politique, bon, je pars du principe qu'on ne peut pas non plus mettre son énergie partout, mais j'ai l'impression de participer quand même, bon, avec mes petits moyens, mais à l'évolution d'une société et d'essayer de l'humaniser, c'est-à-dire de la rendre responsable. Vous voyez, c'est un peu, j'ai peut-être été incomplète dans mon propos tout à l'heure, mais c'est un petit peu ce que je voulais dire. J'ai quand même l'impression qu'on travaille de façon individuelle, mais sur le terrain, derrière un bureau, je trouve qu'on travaille quand même. Et justement, c'est ce déni-là qui me gêne. Et à trop vouloir se justifier, on va aller dans le sens de ce qui nous est reproché, entre guillemets. J'ai toujours pas compris ce qui nous était reproché. C'est ça qui me gêne. Oui, il y a deux questions. Ah ouais. Bon, on n'a plus de micro. Oui, une petite résistance. À la loi. Bon, mais si vous voulez, si vous avez des voix qui portent. C'est reparti, voilà.
C'est pas une polémique, c'est simplement une petite idée. Il faut pas oublier, et je ne fais pas de politique non plus, et j'essaye de m'en tenir éloigné le plus possible, mais on vit dans un monde où on ne peut pas nier les autres. En fait, cette loi, du moins cet amendement, est présenté au grand public comme une loi anti-secte. Évidemment, il y a des mots qui passent bien actuellement.
C'est démagogique.
Et les médias se font bien tout à fait les perroquets de. Hein, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est. Je comprends tout à fait votre position de ne pas se défendre. On n'a pas à le faire. On n'a pas de justification à donner de quelque chose que l'on croit être bon et qui donne de bons résultats. C'est vrai. Je suis tout à fait dans cette ligne-là. Mais voilà, pour exercer, il faut une officialisation de la profession, c'est ça que je veux dire, dans le sens où si elle est complètement niée par les lois et par l'ordre public, eh bien on risque de se retrouver justement à travailler à côté, et évidemment ça pose d'autres problèmes, où là on rentrerait, enfin je ne vais pas aller très loin, le mot est un peu fort, mais dans la clandestinité, enfin c'est un mot un peu fort.
Ah,
enfin,
ben oui, vous comprenez bien. Vous avez des usurpations d'identité aussi.
Voilà,
bon, ça, Elisabeth Rudinesco, effectivement, le dénonce et le subodore, dans la mesure où il est bien évident que si seuls, en premier lieu, les psychothérapeutes bon, sont quand même. Concernés, il y aura aussi des psychothérapeutes qui se diront psychanalystes. Or, ce sont deux champs professionnels qui sont différents. La psychanalyse, bien sûr, travaille sur l'inconscient, donc sur deux instances qui sont le ça et le surmoi, essentiellement, et les psychothérapies sur le moi, qui est aussi une instance, mais beaucoup plus corporéisante, bien sûr. Donc, les psychothérapies travaillent a priori davantage sur les effets que sur la cause. Oui. Vous êtes psychanalyste.
Oui, je voudrais rajouter une chose. Ce qu'on entend aussi, ce que j'entends aussi dans le milieu, c'est qu'il y a un lobby des laboratoires, parce que les mots, ça coûte pas cher.
Bien sûr.
Bon. La deuxième chose, c'est que, pour reprendre ce que dit madame, quand on veut s'installer en tant que psychothérapeute et on choisit d'acquérir un local et puis qui peut recevoir une clientèle en libéral, la DDE ne reconnaît pas le titre de psychothérapeute. Pour eux, ça n'existe pas. Pour les ACDIC, ça existe. Pour les URSAF, pardon, ça existe. Mais pour la DDE, ça n'existe pas.
Mais je vous signale que, en tant que psychanalyste, donc de formation non médicale, d'un point de vue de la fiscalité, on sort soit à sage-femme, soit à infirmier. Et à côté de ça, bien sûr, on a 19,6 de TVA par acte.
Oui, ben, nous, c'est pareil.
Voilà.
On nous a donné un code récemment, mais seulement pour pouvoir apercevoir justement l'URSSAF et la TVA, bien sûr. Donc voilà, donc, comme dit madame, je veux dire, si on veut s'installer, la DDE ne vous reconnaît pas.
Oui.
Ça n'existe pas, psychothérapeute, ils ne savent pas ce que c'est.
On voit que l'argent est le symptôme, d'ailleurs, en amont, bien sûr. Il y a des interventions. Il faut que... C'est fini ? Non, il reste 5 minutes. Bon, il reste 5 minutes. Oui, oui. Si vous voulez intervenir sur des points, c'est vrai que, bon, moi, je trouve que c'est sympathique quand les choses restent libres, mais si vous voulez qu'on creuse un petit peu...
Comme il reste peu de temps, en fait, c'est un peu égoïste de ma part.
Non, non, vas-y.
C'est le débat, mais j'aurais aimé que vous éclairiez un peu plus le rapport de la psychanalyse à l'université. Parce que, étant universitaire à Paris 7, en fait, où c'est vrai, depuis une année, je me loge un peu dans un paradoxe en faisant une formation analytique à côté... Où effectivement, bon, en même temps où Paris 7 propose d'étudier des textes de Freud et de Lacan, et en même temps où au fond, effectivement, c'est pas en faisant des grands zooms sur des concepts qu'on peut travailler et préparer enfin une clinique, on l'entend bien, quoi. Donc j'aimerais bien, par ce souci où effectivement, moi ça me pose beaucoup de questions actuellement, donc j'ai un peu de mal à trouver ma place aussi à l'université dans une histoire du savoir. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir qui bouge ou qui permet de se déplacer? Donc, je serais intéressée pour que vous puissiez un peu développer cette histoire du savoir.
Oui, alors, ça, c'est très vaste. Ça, en revanche, c'est vrai que ça fait des années quand même que ça gêne la psychanalyse. On ne voit pas très bien. Donc, je vais essayer de vous donner mon point de vue. On ne voit pas très bien comment on pourrait devenir psychanalyste en fréquentant uniquement, bien sûr, les bancs de l'université. Déjà, pour une raison qui est évidente, c'est, vous y avez fait allusion, c'est le supposé savoir pour Jacques Lacan, c'est-à-dire que dans une faculté, il y a quelqu'un qui est sur une estrade, c'est celui qui sait, et puis il y a bien sûr des élèves qui ne savent pas. La psychanalyse est une méthode et ça ne se joue pas en termes de savoir ou d'avoir, mais en termes d'être. C'est-à-dire que la psychanalyse, bien sûr, va traiter du sujet. C'est pour ça qu'il n'est pas question d'un enseignement ou d'un apprentissage, mais que l'on va plutôt parler de didactique. En sachant aussi qu'aujourd'hui, la psychanalyse appartient toujours aux grandes traditions orales, et l'étude du transfert, bien sûr, ne va pas y échapper. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un institut de psychanalyse privé, c'est un pléonasme, hein, mais effectivement, le didacticien, s'il est plutôt freudien, va, dit-on, en début de cours, va plutôt stimuler Freud, aller chercher un petit peu l'état pulsionnel, mais de façon plus soft que ce que l'a fait Lacan. Mais Lacan a tout à fait sa place au niveau d'une méthodologie, bien sûr, qui a fait ses preuves. Et on sait que chez les Lacaniens, il est plutôt question d'hystérisation. C'est-à-dire que le didacticien va tester à sa façon donc l'état pulsionnel du groupe. Il est bien évident qu'il va se passer quelque chose et les transferts vont commencer à s'agiter, c'est-à-dire que dans ce champ qui reste d'ailleurs quelque part apparenté à de la rondeur, même très inconsciemment, eh bien nos complexes vont s'agiter, c'est-à-dire que la réaction donc à la stimulation, à l'hystérisation va nous renvoyer à soi, parce que on peut être finalement très content qu'un élève, là je rentre dans le jargon, se fasse castrer. C'est vrai qu'il peut y avoir une jouissance, au contraire ça peut nous affecter, c'est-à-dire nous faire de la peine. Donc effectivement l'étude du transfert ne peut en aucun cas se faire sur les bancs de la fac. Ça va rester quelque chose d'extrêmement théorique et vous y faites allusion. La fac à ce moment-là pourrait surajouter au complexe, d'ailleurs aussi bien d'infériorité que supériorité, pour in fine nous faire entrer dans un champ donc de compétition, de compétitivité. Ce qui n'est en aucun cas le champ de la psychanalyse, puisque le sujet s'inscrit dans une complémentarité quant à l'autre. La vengeance devient la revanche quant à soi. C'est pas du tout quelque chose de négatif, au même titre que l'agressivité va devenir de la combativité. Et c'est donc ce qu'on va appeler la sublimation. Il y a une véritable transformation dans un premier temps, et toute l'énergie, donc toute la libido que nous investissions mal, c'est-à-dire soit dirigée de façon extrêmement négative contre un autre ou retournée contre soi, va subir effectivement une modification qui va être à disposition de soi et d'autrui. Notamment, on va quitter le champ de la culpabilité, et toute cette énergie récupérée va effectivement nous permettre de nous réinscrire dans notre axe. Et ça, l'université ne peut pas apporter cela. L'université, c'est du registre toujours, du paraître, de l'avoir. C'est pas péjoratif. Encore une fois, il se passe des choses à l'université qui sont tout à fait en lieu et place. Mais à aujourd'hui, l'analyse, où il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui postule pour démontrer le contraire, mais l'analyse, effectivement, de par cette étude transférentielle indispensable, ne peut pas être transmise autrement que dans cette espèce de système extrêmement clos, qui a fait dire à tort, bien sûr, qu'il s'agissait de secte, alors qu'il n'en est rien. Moi, dans mon établissement, la porte est toujours ouverte. Hein. C'est pas du tout un souci, n'importe qui peut y entrer. Il n'y a pas non plus de ségrégation, bien sûr, sociale, c'est-à-dire à type de diplôme, notamment.
Malheureusement, nous sommes obligés de clore.
Oui, je ne pensais pas que c'était passé si vite. Je vous remercie donc d'avoir accepté de jouer ce jeu, puisque vous n'étiez pas du tout venu pour cela. Et j'ai apprécié vos questions, parce qu'elles font aussi cheminer. C'est enregistré, donc on essaiera aussi d'aller dans votre sens, puisque vous nous faites le privilège quand même de vous déplacer, de venir jusqu'à nous et d'acheter Psychanalyse Magazine. Merci.
Pour toute question complémentaire,
excusez-moi, Joël, je suis très mal élevée, mais il est tellement discret, ce jeune homme, que j'ai oublié, bien sûr, de saluer Lionel. J'évite maintenant de regarder ce qu'il fait, parce qu'en général, ça me coupe un peu de ma direction. Ça vous a convenu, ce qu'il vous a proposé? Oui. Oui. Et si on les remettait, s'il est d'accord, aux personnes qui ont bien voulu poser des questions, qu'on les distribue un peu, ça serait sympathique, hein, puisque oui, dites-vous. Hein. Ben voilà, Lionel, tu veux bien distribuer, oui. Je suis convaincue qu'il est pour la loi Collier, je ne sais pas pourquoi. Hein. Tu n'as pas honte. Merci à Lionel aussi qui nous accompagne avec talent et beaucoup de compétences et de gentillesse.